Le choc des idées.
Oui, le choc des idées. On aurait pu s'attendre à ce que François Gagnon soit vêtu d'un habit veston-cravate. Mais non, c'est Martin Biron. Salut, Marty!
Salut François, salut Martin. Ouais, ben c'est moi, là. On a la grosse soirée Rob Ray à soir à Buffalo. Hein. C'est son intronisation dans le temple de renommée des Sabres. Alors, il y a une belle soirée préparée. Fait que je suis de bonne heure en cravate puis je suis bien prêt.
Et celui qui arbore le T-shirt de Black Sabbath, oui, mesdames, messieurs, c'est François Gagnon. Salut, Frankie.
Salut, salut. Remarque que Rob Ray pourrait porter un chandail de Black Sabbath, certainement. Il me semble que ça y va bien. Bob Ray, qui est la plus grosse représentation de Bill Ballantyne, pour ceux qui ont déjà lu des Bob Moran quand ils étaient très, très jeunes ou que leurs parents étaient jeunes, la mâchoire large comme ça. Rob Ray m'a déjà fait faire un saut quand j'étais membre au club de golf Le Mirage. Une journée que je sors du golf, j'étais tout fier de ma performance. J'étais prêt à célébrer, puis tout ça, les bras en l'air, les masses en l'air. Qui c'est que je croise dans l'entrée? Rob Ray, j'ai figé. Là, je me suis dit, si je fige en avant de Rob Ray dans un corridor d'un terrain de golf en plein été, je voudrais pas voir c'est quoi, c'est une patinoire quand il est vraiment choqué.
Exact.
On se souviens-tu, là, Martin, François, là, à Québec, le match où que le partisan avait sauté sur le banc des Nordiques.
Mauvaise
Rob Ray,
idée.
Il en avait donné une trentaine. Ça n'avait pas d'allure.
Non, c'était épouvantable.
Très mauvaise idée.
D'ailleurs, ouais. Il est sur la ligne. On va aller le rejoindre tout de suite. Sébastien, salut, c'est toi qui avais sauté. Non, c'est pas vrai.
j'ai vu une entrevue, là, j'étais allé faire une recherche il y a quelques années, puis TQS avait fait une entrevue avec le gars, puis il avait demandé pourquoi t'as sauté sur le banc, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, j'aimais pas la violence dans le hockey, puis il y avait trop de violence durant ce match-là, il y a eu des bagarres, alors j'ai décidé de comme faire un geste pour dire on a trop de violence. Hey, il n'a pas aidé ça pantoute avec les coups de bâton et les coups de poing qu'il a mangé.
Non. Il n'y a personne qui pensait que ça venait pour mettre de l'ordre. François, c'est pas
à cette époque-là, je vais plus finir là-dessus avec cette anecdote-là. Mon collègue Chris Stevenson d'Ottawa avait surnommé les Sabres de Buffalo le bureau d'avocat. Parce que ouais. Tu avais Ray, May, Bugner, Barnaby. And associates. Ouais. C'est, ça ouais. Faisait comme une firme d'avocat ou une firme de comptable, sauf que c'était pas ça pantoute. C'était, là, je vais le dire, c'est une figure de style, tout le monde, venait pas fou. C'était comme une entreprise de tueur à gage ou de matamor. T'appelles, puis tu fais quelque chose, puis tu étais sûr que si tu allais rentrer dans ce bureau-là, tu allais ressortir avec une ecchymose ou deux.
Moi aussi, je vais finir avec ça. C'est que je pensais que l'image tordue ou l'image spéciale, c'était de voir François Gagnon avec un T-shirt de Black Sabbath. Non, c'était de voir François Gagnon avec son T-shirt de Black Sabbath essayer d'enlever la queue de sa chatte ou de son chat dans sa face. Ça, on devrait faire un screenshot là-dessus. Ça vaut un gros 100$, j'en suis certain. On peut faire une couple de pièces avec ça. Messieurs, je peux pas croire qu'il faut revenir sur ce match-là, mais on va essayer de trouver des angles intéressants. Martin Saint-Louis et le coaching staff peuvent être à blâmer pour les deux dernières défaites du Canadien. Absolument. Pas pantoute. Marty.
Pas pantoute. Écoute, ça a tellement joué du hockey mou, tu sais, pas de rigueur, pas d'intensité. Aucun avantage numérique contre Winnipeg. Un hier, là, contre Minnesota, mettons, là, puis c'était à la fin. Écoute, ça jouait. Il n'y a aucune intensité. Puis ça, mais les entraîneurs, des fois, tu dis oui, tu rentres dans la chambre, là, puis tu fais un wou-ra-ra, puis tu envoies, on y va. Mais je pense que c'est aux joueurs de se réveiller et jouer avec l'intensité. Puis il n'y avait aucune intensité dans les deux derniers matchs canadiens. Alors, je dis que c'est pas la faute des entraîneurs.
Pas de jus. Hein? C'est pas l'effort qui était le problème. Martin a dit que c'était le jus. Alors, moi, j'attends encore qu'on me l'explique. François, Martin Saint-Louis et le coaching staff peuvent être blâmés pour les deux dernières défaites du Canadien. T'as pas dit absolument, t'as pas dit papa tout. Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit qu'il y a une responsabilité à partager entre les joueurs et le coaching staff. Ça, c'est certain. Martin a parlé du fait que c'est au coach à trouver une manière de motiver ses joueurs. Puis hier, je peux pas croire qu'il y avait pas de motivation. Là. T'as bien beau adorer Marc-André Fleury, puis Martin Biron aussi, là, mais Marc-André Fleury. Puis t'as bien beau vouloir qu'il ait sa place au temps de la renommée, ce qui va être acquis, mais tu veux pas y donner la victoire comme le Canadien l'a fait hier. tu veux au moins le forcer à avoir chaud un peu. Ouais. Il y a eu plus chaud à répondre aux questions des journalistes après le match qu'il a eu chaud pendant la partie. Alors, je veux dire, là, il y a des limites. Il y a des choses, par exemple, dans la gestion du match qui sont intéressantes à relever. Puis là, ben libre à vous de dire, ah ben ça, c'est de la faute du coach. Moi, j'aime pas cette décision-là. Puis, c'est à prendre ou à laisser, mais ça ouvre le débat. On a parlé de la présence de Pezzetta en fin de deuxième période contre les Jets. Bon. Puis ça, ça a coûté un but. C'est pas de la faute à Pezzetta, mais il reste que tu n'avais peut-être pas les cinq meilleurs éléments disponibles. Hier, en fin de première période, c'est sans doute passé inaperçu, mais j'étais assis à côté de mon chum Bob Hartley, puis il reste 25 secondes. C'était le trio de Kirby Doc qui était sur la glace, qui retraite au vestiaire. Puis à 25 secondes, c'est Jake Evans qui est sauté sur la glace. Mise en jeu en territoire ennemi. Moi, j'ai pas aimé ça. Puis là, je ne commencerai pas à dire que Martin Saint-Louis ne s'est pas coaché et que je suis un meilleur coach que lui. Moi, je vous dis, moi, je n'ai pas aimé ça parce que avec Nick Suzuki, Caulfield et Slavkovski qui étaient reposés, c'est ces trois gars-là que je vais renvoyer sur la patinoire. Ouais. Avec 25 secondes à faire, tu veux ces trois gars-là pour une mise en jeu en zone ennemie. Alors, est-ce que on peut se permettre de relever ces choses-là? Oui, parce que ça fait partie de ce dont on est témoin dans un match. Maintenant, je ne veux pas dire que je blâme le coach pour la défaite d'hier, mais je blâme l'ensemble de l'équipe parce que l'ensemble de l'équipe n'a pas démontré, hier soir en tout cas, là, n'a pas démontré de cohésion sur la glace et de conviction sur le jeu. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Père, ça ne me dérange pas que tu perdes. Mais démène-toi sa glace. Puis hier, il se démenait pas sa patinoire.
Ah, ça a été une défaite sans effort. Je sais que Martin a dit l'effort était là, mais c'est le jus. Moi, je la comprends pas encore, le jus. Il va falloir que vous me l'expliquiez.
C'est la même affaire, le jus. T'sais, des fois, tu travailles. Tu sais, oui, tu es en sueur, puis tout, puis tu n'as pas d'énergie. Je comprends ça. Pourquoi il n'y avait pas d'énergie hier soir? Tu sais, il n'y avait aucune raison. Là. C'est un gros match. Il y avait de l'intensité. Il y avait un buzz dans le building avec Marc-André Fleury. Donne-moi tout ce que tu as, je pense que c'est un peu la même affaire.
Ouais. Tu sais, la question se pose, je vais changer de sujet, mais c'est la responsabilité de qui? C'est-tu le coach qu'il faut que soit le plus grand des motivateurs ou c'est les joueurs qu'il faut qu'ils gèrent tout seul et qu'ils soient capables de se motiver tout seul, tu sais?
Alors, le coach a une job de motivation à faire, puis sa stratégie, ça vient du coach. Si les joueurs l'appliquent mal ou l'appliquent pas du tout, ben là, à ce moment-là, là, tu peux débattre là-dessus. Mais c'est le coach qui dicte la ligne de conduite, puis c'est lui qui frappe sa grosse caisse pour dire le rythme, c'est ça.
La cadence. Marty?
La cadence.
Oui, mais moi, je vais te dire, là, John Tortorella nous avait donné un speech, la même affaire. Des fois, t'es de la fatigue corporelle, tu sais, mais le mental, là, en haut du corps, là, en haut de la tête, il faut que ça marche. Bill Guérin, l'autre fois, il est sorti en disant hey, c'est de la merde. On dit que tout le monde est fatigué, que le calendrier est vraiment. Il y a trop de matchs, il y a trop de. Non, non. Et tu peux être fatigué physiquement, puis jouer un bon match parce que tu te sers de ta tête. Je pense que le Canadien. Peut-être que physiquement, ils n'étaient pas là, mais ils ne sont pas sortis de leur tête non plus.
Ça fait deux fois que Guérin l'a dit. Il l'a dit également dans son passage à Montréal. Moi, je vais vous dire quelque chose. Une affaire que je n'ai pas aimée, c'est le duo de défenseurs. Moi.
Ah, ben là, je pensais que c'était une autre question qui s'en venait, ça.
Elle s'en vient. Elle s'en vient. Je la place, là. J'ai dit plutôt que Kaelin Goulet, c'est ton meilleur joueur. Il n'y a pas une équipe qui se respecte qui va jouer son joyau à défense du mauvais côté. Depuis, on l'a remis à gauche, puis on a vu le vrai Kaelin Goulet. On a décidé de mettre Lane Hutson, là. Lane Hutson n'est pas là pour protéger d'autres joueurs. Il est là pour apprendre la game. Et on l'a mis du mauvais côté. Alors moi, j'ai trouvé que les duos de défenseurs, avant même que ça commence, j'étais contre. Alors la question qu'on vous pose, c'était une erreur du coaching staff d'avoir mis Lane Hutson à droite d'Arber Jackay comme paire de défense. Je pense que tu aurais demandé à 10 personnes avant le match, Arber avec Lane, pensez-vous que c'est possible? Je pense que les 10 auraient dit non. Absolument pas pantoute. Je vais commencer avec Marty.
Ben moi, j'ai dit pas pantoute parce que c'est pas une erreur parce que, regarde, on en parle tellement en beau et bien de Lane Hutson. Bon, ben c'était peut-être un test de voir il est où, là. Est-ce qu'il est capable de contrôler une paire à lui-même? Est-ce qu'on peut vraiment lui donner cette responsabilité-là ou est-ce qu'il a besoin d'un Mike Matheson avec lui? Alors, puis Arber Jackay jouait quand même du bon hockey. Alors, je me dis, OK, c'est de tester Jackay aussi. Alors, je veux pas dire que c'était ce que tu vas faire 10 matchs sur 10, mais pour ce match-là, après la blessure à Goulet, t'essaies quelque chose. OK, je comprends ça, l'essai de voir si Hudson est prêt. Mais à part de ça, tu sais, parce que David Savard ne peut pas jouer vraiment en c'est un top 4. Tu sais, il est une troisième paire, puis c'est ça. J'aimerais bien ça voir David Savard être élevé top 4, joue plus de minutes. Il peut pas. Tu n'as pas le personnel pour vraiment là, dealer la perte de Caden Goulet.
J'aurais gardé Jacky avec Savard, j'avais dit avant le match. J'aurais remis Lane avec Madison et j'aurais mis Struble avec un défenseur stable d'expérience comme Carrier qui va bien. François, je te relance. C'était une erreur de coaching staff d'avoir mis Lane Hudson à droite d'Arber Jacky comme paire de défenseur. Absolument pas pantoute.
Moi, j'ai pas aimé ça. Je dirais pas que c'est une erreur, mais s'ils prennent pas. Je pense que j'avais répondu absolument. Là. J'ai répondu absolument.
T'as répondu
parce absolument. Que j'ai pas aimé ça. Mais ça va devenir une erreur si on prolonge trop longtemps ou indûment cette expérience-là. C'est une année, pour moi, c'est une année de réponse à des questions et d'expérience. J'abonde dans le même sens que Martin quand tu dis « OK, on fait un test ». Mais quand tu fais un test, il faut que tu sois assez vif dans tes réflexions pour dire « OK, ça ne marche pas ». Et hier, du haut de la galerie de presse, chaque fois que Hudson avait la rondelle à droite, en zone ennemie, à la ligne bleue, tu le voyais qu'il essayait de faire quelque chose. La bande était trop proche à sa droite. Il n'est pas habitué de partir de ce bord-là, puis il était sur son revers. Il a effectué des mauvais jeux. Il a mis Jacky sur les talons dans le. C'est-tu sur le premier but? En tout cas, Et ils ne se sont pas complétés de la soirée. Alors, tu as essayé, ça n'a pas marché, passe à autre chose. Ouais. Et pour moi, Jacky ne peut pas compléter Hudson. Il y a trop de différence entre les deux. Jacky a un bon tir et puis il a un gros gabarit. Garde-le sur ta troisième paire. C'est là qu'il est le mieux. Puis amène-le pour son tir en avantage numérique, si tu veux.
Oui, d'accord avec ça. Moi non plus, je n'ai pas trouvé que ça marchait fort fort, ce duo-là. Bref. Hey messieurs, on va reprendre une petite pause de deux minutes.
Je t'interromps, là.
Ben oui.
Mais j'espère que tout le monde réalise qu'on a cette discussion aujourd'hui à cause de l'absence de Caden Goulet. Ça prouve deux choses. L'importance de Caden Goulet et le manque de profondeur du Canadien à la ligne bleue. En dépit de l'acquisition d'Alexandre Carrier, qui avait apporté une belle stabilité à Goulet. Fait que quand on dit que le Canadien est encore en ascension, en construction, puis que c'est encore un club fragile, là, c'est pas pour fesser dessus à coups de marteau, c'est pour présenter un tableau qui est plus réel que la grande séquence de victoires de 13 en 18 matchs ou en 16 matchs que le Canadien a connu.
Je suis d'accord, François, mais c'est parce que Minnesota est arrivé à Montréal avec une paire de Merrill puis de Bogosian.
Ah, et là, tu m'ouvres la porte. Là, je suis, tu t'en vas à pause, là. Mais le Wild du Minnesota avec la paire avec Merrill, que le monde crachait dessus quand il était à Montréal, sans Kirill Kaprizov, le Wild a prouvé à tout le monde qui était dans le Centre Bell que quand une équipe joue en équipe et qu'elle joue avec conviction, puis qu'elle dit « Asseoir, on n'a pas les effectifs, ou on est un peu moins fort que l'adversaire, je ne dis pas que c'était ça hier, mais on va jouer plus fort qu'eux autres, tu mets les chances de ton bord. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait hier. Ils ont éteint le match au complet, puis ils ont dit à Fleury « On va te faire cadeau de cette victoire-là. »
Moi, tout, je crachais, mais c'était sur Bogosian à Buffalo il y a quelques années, puis je pensais qu'elle allait prendre sa retraite, puis il joue encore, puis il joue bien.
900e match hier soir. Il joue bien parce qu'il joue dans ce système-là et on trouve le moyen de maximiser le potentiel qu'il a à offrir.
Hey, je pense qu'il
tu feras jamais du cristal avec de la roche, puis tu réussiras jamais à sortir de la roche, de l'eau d'une roche, même si tu as tort fort, fort, fort. Mais si tu places ta roche d'une rocaille à bonne place, ça peut être beau, puis ça peut être utile. Bogosian est utile. Merrill est utile parce qu'ils sont utilisés dans les limites de leur potentiel. On maximise ce qu'ils ont à offrir.
Affaire, je pense que Bogosian est plus lent que Savard même. Pas drôle, là.
Tu penses la barbe le ralentit.
C'est ça.
Il n'a pas été pris en défaut hier. Puis il a fait sa job, puis il a protégé son gardien.
Le Canadien n'a rien fait pour le mettre en défaut.
Exactement.
Kent Hughes doit aller chercher un défenseur sur le marché des transactions pour pallier à la perte de Caden Goulet. J'ai pas rencontré personne qui me dit absolument. Martin?
Ben moi, j'ai dit absolument parce qu'il y a une autre étape à ça. C'est parce que je regarde la formation du Canadien puis je me dis, moi, là, je changerais David Savard. Tu sais, il joue sur une troisième paire présentement. Il va peut-être avoir un choix de deuxième ronde pour. Il va avoir des équipes qui vont vouloir l'avoir. Alors, je me dis, bon, ben si tu as perdu Goulet, puis moi, je changerais David Savard. Ben, t'as besoin d'aller chercher un défenseur parce que sinon, t'es dans le trouble avec ce que t'as. T'sais. Oui, tu peux rappeler Logan Mayhew puis tout ça, mais t'sais, va chercher quelque chose d'autre. Là. C'est pas juste à cause de Gouley, c'est à cause de David Savard. Moi, je ferais cet échange-là. Alors, je me dis, ils ont besoin d'un autre défenseur. J'ai jumelé ça un peu. Là. C'était pas la question comme telle, là, mais j'ai rajouté mon... une deuxième étape.
Oui, un peu comme les Islanders qui viennent d'ajouter dans les dernières semaines, eux qui sont sur le lancé, trois défenseurs. D'Angelo sont allés chercher Scott Perunovic pour pas grand-chose et ils viennent d'acquérir sur le balotage
Bockvis.
Adam Bockvis.
Oui.
Je suis content que tu amènes ça parce que là, on a deux équipes qui sont sur des courbes diamétralement opposées. Les Islanders, c'est le club, un des clubs le plus vieux, puis un des clubs le plus lent de la Ligue nationale. Lou Lamoriello, qui est un génie du hockey, s'entête avec ce club-là. J'ai l'impression qu'il ne veut pas déconstruire pour reconstruire. Alors lui, il a besoin d'accéder aux séries, puis ils sont rendus dans le portrait. Là, il y a 10 jours, moi, je pensais que comme les Sabres, que les Islanders étaient sortis de la course, puis là, ils sont à égalité avec le Canadien, ou à peu près. Là. Je pense qu'ils ont un match de plus de jouer. En tout cas, anyway, ils sont dans le mix.
Ouais, t'as raison.
Égalité. Bon. Alors lui, il y a eu des blessés. Ils ont perdu Dobson, puis ils en ont perdu un autre. Fait qu'il avait besoin de renfort tout de suite. Martin... S'il est GM du Canadien en ce moment, puis que lui, sa job attient à sa présence en série, puis là, je parle de Martin Biron, je le comprends de dire bouge, puis bouge tout de suite, puis tu te débarrasseras, je dis ça le plus poliment possible, de Savard ou même d'un autre en temps et lieu. Moi, François Gagnon, GM du Canadien en ce moment, je répète depuis le début de l'année que je veux avoir des réponses à mes questions, alors je ne fais pas d'échange. J'amène Mayhew pour voir s'il a compris quelque chose à Laval puis s'il est tanné de faire de l'autobus. J'amène d'autres jeunes de l'organisation, Engstrom, j'amène des gars pour voir où ils sont rendus. Pas pour remplacer Caden Goulet. Ils ne remplaceront pas, sont moins bons que lui. Mais pour voir où ils sont rendus. Et puis, je donne plus de responsabilités à Jaden Struble qui m'avait épaté au camp d'entraînement. Après ça, ben, il m'a déçu. Puis là, il ne jouait plus, fait qu'on ne peut plus y en vouloir. Alors, j'y donne de la glace. Puis j'ai dit, hey, mon petit gars, tu étais bon au camp d'entraînement, tu étais bon en match préparatoire. Prouve-moi que j'ai intérêt à miser sur toi au lieu de te regarder puis de dire, OK, il ne fait plus partie de mes plans. Alors, moi, c'est ça que je veux faire si moi, je suis directeur général en ce moment.
Les Islanders, c'est quand même fou, tu sais. Ils ont perdu Varlamov. Fait que ça a arrêté de mettre de la pression sur Sorokin. On joue Sorokin, on gagne. Dobson et Pollock, leurs deux premiers défenseurs sont hors. Tu sais, quand le monde dit on a perdu Goulet, les Islanders ont perdu.
C'est Goulet, Matheson, là. Puis c'est, ou même Hudson, si tu veux, parce que Dobson, c'est une machine à faire des points. C'est le Matheson de l'an passé, mettons.
C'est leurs deux meilleurs défenseurs et ils sont sur une lancée. Tu sais, quand je dis, là, c'est pas vrai parce que tu perds Goulet, ça explique pourquoi tu chutes. Tu chutes parce que tu te présentes
tu joues mal.
Tu joues mal.
Tu joues mal.
Le système, peu importe, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Donc, toi, tu réponds. OK, tu as répondu. OK, on s'amuse parce que François, c'est comme le jour de sa vengeance. Le Canadien est 21e. Un ou deux rangs plus bas, le Canadien repêchera top 10 au repêchage l'an prochain. Pensez-vous que le Canadien repêchera top 10 au repêchage l'an prochain? Absolument pas pantoute.
Aïe, aïe, aïe.
Marty!
Moi, ça m'a fait.
Maintenant, je vais commencer avec Marty.
Martin, je te vole la parole. Ça m'a fait mourir parce que quand on reçoit ces questions-là, je regardais ça. Puis là, je l'ai même écrit, je suis parti à rire. Je dis, gars, la gang, là, ils savent plus quoi faire. Il est maintenant en série il y a 2-3 jours. Fait que là, ils sont tous découragés. Puis là, ils pensent qu'ils vont gagner à la loterie. Tu sais, c'est comme ça change tellement. Demandez-nous pas de sortir une boule de cristal, ça n'a pas de valeur. Oui, je te vois, là. C'est bien beau.
Salut, François.
L'auteur des questions. Tu sais, on vous parle à tous les jours, à tous les 2 jours, 2 fois par semaine dans mon cas, puis j'essaye de vous brosser le tableau que je vois à long terme. Mais là, tu regardes le classement, c'est tellement fou. C'est des billes de popcorn là, qui sautent. Là. Les grains de popcorn sautent à droite, à gauche, avec une victoire puis une défaite. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut éviter le plus possible d'être attiré par ces changements-là et respecter le plan qu'on s'est donné. Sinon, on va se perdre, on va se fourvoyer, on va rentrer à 100 000 à l'heure d'un cul-de-sac puis on va aller se casser le nez dans le fond de la rue.
Puis, tu penses qu'il repêche top 10?
Ben oui, depuis le début de l'année, je le dis.
OK. Non, moi aussi, je n'ai pas
mais merci. Arrive-moi pas la semaine prochaine me dire ils vont être dans les trois premiers clubs de l'Atlantique. Là.
Non, non, mais j'ai dit au début de l'année, dernier dans l'Atlantique, ils ne feront pas les séries. J'espère qu'ils vont être dans le mix le plus longtemps possible. Mais quand on était sur la séquence de 14-3-1, c'était difficile de dire ouais, cette équipe-là va jouer en bas de 500 d'ici la fin de l'année. T'sais.
Ouais, mais tu l'as vu en début de saison, par exemple. Puis okay, tu oui. dis ça peut revenir, là, tu sais. L'année passée, les Prédateurs de Nashville étaient un club de 500. Ils ont eu une séquence de 16 victoires, aucune défaite et deux défaites en prolongation. 18 games okay, qui ont été 16-0 et 2. Le reste de l'année, ils étaient 500. Puis ça allait pas bien. Tu le vois cette année, là, ils ont pas de séquence de 16-0 et 2. Puis ça va pas bien. Alors, je me dis, le Canadien, c'est la même affaire. Moi, comme François, depuis le début de l'année, je dis, le Canadien, ça fait pas les séries. Le Canadien, ça va finir dans le sous-sol de la division Atlantique. C'est sûr que les Sabres les aident un peu en restant vraiment bas. Mais quand même, là, top 10 au repêchage, oui. Puis je pense que même tu m'aurais posé la question, si tu m'avais posé la question top 7, top 8, je pense que j'aurais répondu
tu y allais.
Oui.
Tu y allais, ça aussi. C'est bon. Avant qu'on se laisse.
Je rentre encore. Fouillé l'année passée, on a fait une émission, puis c'était André Tourigny qui était avec moi. Puis j'avais sorti quelque chose, puis le Bear m'avait parlé après ça, puis il avait dit « t'as mis le doigt sur le bobo ». T'as parlé de la séquence intéressante du Canadien. Pis c'est vrai qu'ils ont gagné des matchs qu'ils méritaient de gagner. Les gardiens ont fait de la grosse job, ils ont volé des games, mais ça fait partie de l'équipe.
Exact. Okay?
Mais les quatre dernières, là, ils sont rendus à quatre défaites de suite. Là. Ça, ça suit une séquence de quatre victoires, dont trois que le Canadien ne méritait pas. Et la pire affaire qui peut arriver pour un coach, c'est que son club gagne quand il ne devrait pas gagner. Puis là, il est obligé après ça de dire quand il perd, ben, je suis pas choqué de notre match, j'ai aimé notre match. Mais dans le fond de lui, là, il sait qu'il y a des mauvais plis qui ont été pris dans les 10 derniers jours. Puis là, il récolte le fruit de ça. Quand tu plantes du mauvais herbe, ben, c'est du chien dans qui sort. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Ils ont cerclé des mauvaises herbes en gagnant des matchs qu'ils ne méritaient pas. Puis là, ben c'est du chien dent puis c'est du pissenlit qui pousse.
Ouais, le Canadien avait perdu son avance de 3-0 contre les Leafs, perdu 7-3. Après ça, ils ont gagné 5-4, 3-2. Les parties que tu parles qui ont gagné, qui n'auraient peut-être pas dû gagner. Ils ont perdu contre Détroit, New Jersey, Winnipeg et Minnesota depuis ce temps-là. OK, juste un petit clin d'œil pour Martin en terminant. On parle beaucoup du plafond salarial qui augmente au cours des trois prochaines années, Marty. Voici le montant d'argent que les Sabres doivent dépenser pour être au plancher au cours des trois prochaines années. 9 millions l'an prochain, 27 la saison suivante et 39 l'année d'après. Est-ce que tes Sabres vont marcher au plafond ou ils vont marcher au plancher?
Ben, je vais dire, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes en regardant ces chiffres-là qui se sont dit « Ouais, on va être plus proche du plancher que du plafond. » Puis d'après moi, les Sabres, là, c'est ceux qui ont une marge de manœuvre. Il va y avoir des joueurs comme Peterka, puis Quinn, puis d'autres qui vont probablement prendre une place de ce plafond salarial-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui se disent à 113 millions et demi dans trois ans, là, on ne sera pas là. On va être peut-être à 102, à 103, mais on ne sera pas à 113 et demi. Et ça va changer la manière que les équipes font de la business.
Oui, je pense que le sport du hockey va changer businessment parlant à partir de l'an prochain. Vas-y, Frankie.
Matière à réflexion, là, puis moi, je vais écrire là-dessus un peu plus tard parce que je me donne du temps, là. Mais je regardais ça tantôt, puis je me disais, c'est une maudite mauvaise nouvelle pour les amateurs de hockey. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que le plafond a été instauré pour créer une parité, pour empêcher les clubs trop riches de dépenser. Là, ceux qui sont jeunes et qui nous écoutent ne se souviennent pas que dans le temps, les Rangers, le Canadien, les Maple Leafs, les clubs, les Maple Leafs, il y avait de l'argent, mais le boss ne voulait pas dépenser. Mais les clubs qui étaient prêts à dépenser, hein, les Rangers, je vais prendre l'exemple des Rangers, donnaient des gros contrats à Pierre-Jean-Jacques. Quand ça ne marchait pas, ils échangeaient Pierre-Jean et Jacques à des clubs de la Ligue nationale, puis ils venaient payer la moitié de son salaire. OK? Là, tu gardes l'argent, mais tu peux plus faire ça. Et il y a des clubs qui attendaient de ramasser les déchets des autres pour se renflouer. Et là, en montant ça comme ça, tu as des équipes qui vont être obligées de laisser partir des joueurs de concession parce que les gros clubs vont les payer, parce que là, ils vont avoir de la place pour gaspiller de l'argent sur le plafond. Qu'est-ce qui était beau dans les dernières années? c'est que des équipes auraient voulu faire des transactions pour s'améliorer, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait le nez rivé au plafond. Ils ne pouvaient pas dépenser plus. Il y avait moyen de le faire, mais ils ne pouvaient pas dépenser plus. Alors, ils étaient pris avec leurs erreurs. Et là, avec un plafond à 113 millions, il y a des GM aux poches pleines qui vont pouvoir prendre des risques, prendre des paris, les perdre sans avoir à payer pour. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le sport.
Non, j'ai hâte de voir la suite des choses dans ce dossier-là. Messieurs, gros merci. Bon week-end. C'est comme un week-end tranquille avant qu'on retombe dans notre week-end épicé avec deux matchs du Canadien la semaine prochaine et surtout un Super Bowl. Prenez soin de vous. On se reparle la semaine prochaine.
Salut, bye!